Alors, vous avez déjà vu dans les exposés précédents plusieurs sortes de raisons, plusieurs sortes de causes aux épilepsies. Je voudrais vous parler d'une situation un petit peu, pas différente, mais particulière, c'est l'apparition d'une épilepsie chez un adulte. On a parlé de l'enfant, je vous ai dit que dans 80% des cas, les épilepsies commençaient avant l'âge de 20 ans, mais il y a aussi des épilepsies qui peuvent commencer plus tard, et même très tard quelquefois, parce qu'on sait que les deux extrêmes de la vie sont les périodes où il y a le plus de risques de survenue de crise. Et je voudrais me situer, parce que je pense que c'est intéressant pour la compréhension de la survenue des crises, je voudrais me situer dans la situation où un médecin voit arriver un patient adulte qui vient de présenter une crise pour la première fois. Et à partir de là, quels sont les raisonnements, quels sont les examens, on les a vus, en tout cas, quelle va être la démarche que va suivre le médecin pour essayer de comprendre pourquoi. En fait, c'est un peu comme une enquête policière. Dire que, comme les experts, vous savez, on voit ces séries américaines là où on recherche le coupable. Eh bien, c'est un petit peu le même raisonnement. Il va y avoir une enquête, il va y avoir un interrogatoire, il va y avoir des examens, une mise en examen même, hein, jusqu'à ce qu'on trouve le coupable et qu'on puisse ensuite traiter le coupable. C'est un petit peu comme ça. Alors pour l'autre métaphore que j'utilise pour les enfants, c'est bien sûr celle du puzzle. C'est un petit peu le même système. On a plusieurs pièces de puzzle qu'il faut assembler, et plus on aura de pièces, et plus le puzzle sera réussi. Donc c'est un petit peu ça la démarche intellectuelle d'un médecin lorsqu'il voit pour la première fois un sujet qui fait une crise d'épilepsie, mais finalement, à chaque fois qu'il va revoir son patient et qu'il va lui poser la question, tiens, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière consultation? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc il va à chaque fois se reposer les questions, parce qu'on l'a vu, il y a des fois où la cause, elle est possible, elle n'est même pas certaine. Donc il faut toujours et toujours se reposer la question en revoyant le patient. Bon, est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que mon hypothèse s'est vérifiée? Je suis sûr à 100%, comme disait M. Maillard, ou je ne suis pas sûr à 100%. Il faut toujours être très modeste par rapport à ça et essayer de comprendre l'épilepsie. Et surtout, cette démarche que va avoir le médecin par rapport à la première crise nous rappelle quelque chose sur lequel je voudrais vraiment insister. La crise d'épilepsie, lorsqu'elle survient, est une coïncidence. La coïncidence entre deux facteurs. Un facteur interne, un facteur qui est celui de la maladie épileptique, et un facteur externe. Et c'est l'association de ces deux facteurs qui va créer la crise d'épilepsie à un moment donné. Il faut toujours avoir à l'esprit ces deux éléments. Ils sont parfois plus ou moins importants. Hein, vous le savez bien, on avait déjà présenté dans une rencontre lorraine de l'épilepsie avec Monsieur Vignal, qui avait présenté les facteurs favorisant l'épilepsie. Donc on sait très bien qu'il peut y avoir des facteurs extérieurs, mais quelquefois, on va le voir, ces facteurs extérieurs sont très importants, sont même les seuls. Et le sujet va présenter une crise d'épilepsie parce qu'il y aura eu ce facteur extérieur. Et alors, curieusement, la démarche, la réflexion va faire qu'on ne va même pas le traiter. Parce que cette crise était liée à la situation. Et si elle est liée à la situation, c'est une crise unique qui n'est pas une maladie épileptique. Donc ce distinguo-là est intéressant à connaître. Alors, les facteurs internes, le plus connu, on en a parlé déjà chez les enfants, notamment, vous avez vu ce tableau, cette notion d'idiopathique, donc d'épilepsie enfin, génétique, mais pas forcément héréditaire. Donc ça rappelle qu'il y a une prédisposition. Qu'est-ce que c'est qu'une prédisposition? Ça veut dire qu'il y a en chacun de nous une susceptibilité plus ou moins importante à faire des crises. Certaines personnes n'en feront jamais, d'autres personnes en feront un jour, peut-être quand ils étaient bébés. Les convulsions hyperthermiques en sont un bel exemple. Ou alors, ils en feront lorsqu'ils seront beaucoup plus âgés, lorsqu'ils seront vieux. Donc, cette susceptibilité, elle est propre à chacun. Cette prédisposition, chacun de nous a ce qu'on appelle un seuil épileptogène. On l'a en nous, et puis, une fois pour tout, ça ne bouge plus. Le deuxième facteur interne qui peut être en cause, c'est une blessure, un traumatisme, une agression. C'est-à-dire que le cerveau a été abîmé, a été agressé, a été... Vous avez vu les exemples sur l'IRM, vous avez vu aussi les exemples en EEG. Il y a certaines cellules, tellement petites, comme disait M. Maillard, qu'on peut ne pas les voir, hein, ou alors énormes, avec de gros dégâts suite à un traumatisme crânien, suite à une thrombophlébite, on a vu un exemple, suite à une maladie infectieuse, etc., etc. Donc, cette blessure-là peut concerner une petite, toute petite partie du cerveau, ou la totalité. La malformation peut être très fine, très discrète, ou au contraire beaucoup plus grande. Cette blessure peut être brutale, c'est-à-dire que le sujet a eu un accident, un traumatisme crânien avec un hématome. Donc ça survient à ce moment-là de manière très aiguë. Ça peut durer très peu de temps, de manière très transitoire. Il a été hospitalisé pour une méningite avec un microbe et une température importante et il va faire des crises pendant quelques temps et après ça va. Ça va s'arrêter. Ou au contraire, cette blessure, elle est durable, elle est là pour longtemps. Et naturellement, le risque épileptique va durer toute la vie. On a parlé tout à l'heure aussi, dans les situations de prédisposition, d'épilepsie liée à l'âge. Donc cette distinction entre les deux facteurs que vous voyez là est aussi intéressante au niveau du pronostic. À quoi ça sert de connaître la cause, disait l'un de mes collaborateurs, ça sert de dire à la famille, voilà ce qui va se passer. C'est sûr que si c'est une épilepsie par prédisposition, susceptibilité, on va avoir une épilepsie liée à l'âge. Elle va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'arrêter peut-être à la puberté. Et elle s'arrêtera d'autant plus tôt si elle commence plus jeune. Par contre, donc on pourra prêter dans ces cas-là et on pourra arrêter le traitement. Par contre, si c'est une blessure qui est durable, un traumatisme crânien avec des séquelles, l'épilepsie va durer très longtemps, voire toute la vie. Donc vous voyez, rien que déjà cette distinction-là est importante entre les épilepsies, on va dire, par prédisposition et les épilepsies par blessure. À côté de ce facteur interne, vous avez le facteur externe, c'est-à-dire que vous avez des éléments à l'extérieur qui vont se superposer, à l'extérieur du cerveau, qui vont se superposer à la prédisposition ou à la blessure cérébrale. Ça peut être des éléments physiques ou des éléments psychiques qui sont facilitateurs, qui vont déclencher la crise. Alors ça peut être spécifique à la maladie épileptique. Vous connaissez tous les épilepsies photosensibles. Alors on peut avoir, avec la lumière, avec les jeux vidéo, avec les écrans, etc., on peut déclencher des crises d'épilepsie. Ça, on le connaît bien, donc on sait qu'il existe des facteurs extérieurs qui peuvent déclencher des crises. D'ailleurs, quand vous faites un EEG, on vous fait de la stimulation lumineuse, justement pour tester cette photosensibilité qui concerne 20% des épileptiques. Je le rappelle, pas 100%, 20% seulement des épileptiques. Donc il y en a 80% qui ne sont pas concernés par cet élément-là. Par contre, il y a des situations qui sont déclencheuses de crises pour toute personne, à savoir le manque de sommeil. Là, c'est sûr que la privation de sommeil est un facteur essentiel dans la genèse des crises. Et c'est la première question qu'on va poser à un patient qu'on connaît depuis des années. Il dit « Oula, j'ai refait une crise le 13 avril, le 25 juin, etc. » Bon, est-ce qu'il y avait à ce moment-là un manque de sommeil? Est-ce qu'il y a eu, pour une raison ou pour une autre? On peut avoir une rage de dents qui vous prive de sommeil. On peut avoir un coucher tardif à cause du travail, etc., etc. Est-ce qu'il y a eu une privation de sommeil et que cette privation de sommeil peut entraîner, peut favoriser, hein. La privation de sommeil n'est pas la cause de l'épilepsie. La cause, c'est le facteur interne. Mais c'est un élément facilitateur. Pareil pour la température, la fièvre, hein, ou le manque de sucre, hein, l'hypoglycémie, etc. Donc ça peut... Éventuellement, ce facteur externe, et c'est ça que je veux que vous arriviez à comprendre, ça peut éventuellement n'arriver qu'une seule fois. Et le médecin aura, lorsqu'il verra un patient adulte qui fait une crise d'épilepsie pour la première fois, aura à cœur de répondre à cette question. Est-ce que cela peut se reproduire? Parce que si ça se reproduit, si le risque épileptique est là, je dois le traiter. Ou est-ce que ça ne se reproduira pas, auquel cas je peux me passer de le traiter? Alors je reprends ça de manière schématique, avec l'équilibre qu'il y a entre les différents domaines que je viens d'évoquer. Donc la sensibilité, la prédisposition, donc va nous être reconnue, si vous voulez, dans l'entretien qu'on aura avec avec la personne, avec notre patient, s'il y a eu bien sûr une épilepsie dans la famille. Ça aide énormément si on sait qu'il y a eu déjà dans la famille d'autres cas d'épilepsie. Ça aide aussi si on sait que la personne a présenté dans l'enfance elle-même une maladie épileptique qui a guéri. Des convulsions hyperthermiques en étant bébé suite à un vaccin. Voilà. Ben oui, j'ai fait des convulsions. Bon, il n'y a pas eu de traitement, il n'y a rien eu. Mais voilà, 20 ans plus tard, je fais une crise d'épilepsie. C'est intéressant de le savoir parce que ça montre qu'il y a quand même bien une sensibilité, quelque chose de particulier à cette personne. Et puis, éventuellement, si le patient a déjà présenté une crise il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, auquel cas, bon, c'est la deuxième crise, ce n'est plus la première. Et là, ça peut aussi avoir une importance de savoir dans quel domaine, dans quelles circonstances, pardon, ça s'est passé, qu'est-ce qui a été fait, quels examens ont été réalisés. Le deuxième élément, je vous l'ai dit, c'est la blessure. On en a parlé, et on le reverra sur la dernière diapo, les causes réelles de l'épilepsie chez l'adulte, bien sûr, le traumatisme crânien. Je veux dire, les accidents de la route, les lésions cérébrales, qu'elles aient été graves ou pas d'ailleurs, c'est pas forcément celles qui ont nécessité une intervention chirurgicale à cerveau ouvert, si je puis dire. Il peut y avoir aussi des traumatismes crâniens fermés avec un hématome, une chose qui peuvent provoquer des crises d'épilepsie. Et c'est assez particulier parce qu'elles peuvent exister dans les premières années, mais quelquefois survenir relativement tard après le traumatisme. Les malformations, on vous en a présenté. Encore une fois, et on a dit aussi attention de ne pas attribuer trop facilement une épilepsie ou une crise d'épilepsie à ce qu'on voit sur l'IRM. On a peut-être, certains d'entre nous, si on lui faisait une IRM, on trouverait peut-être une malformation, alors qu'on n'a jamais fait de crise d'épilepsie et qu'on va très très bien. Donc il ne faut pas non plus avoir systématiquement ça y est, on a trouvé quelque chose sur l'IRM, on comprend tout. C'est plus subtil que ça, mais c'est sûr que les malformations, vous connaissez les anévrismes, on vous a présenté un cavernome, bon, les angiomes, donc des malformations des vaisseaux, c'est même pas des malformations du cerveau, les malformations des vaisseaux qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie. À un autre moment de la vie, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, ça vous le connaissez, on en parle suffisamment, eh bien on peut avoir aussi des crises d'épilepsie qui surviennent au moment de l'AVC. Surtout si cet AVC est hémorragique, s'il y a eu un saignement, mais qui peuvent aussi survenir quelques temps après l'AVC. C'est-à-dire que la personne a fait un AVC, présente une hémiplégie, a été rééduquée, une aphasie, tout va bien, etc. Et là, elle présente une épilepsie qui va se greffer sur la cicatrice de l'AVC. Une tumeur cérébrale, bien sûr, ça peut entraîner des crises d'épilepsie. Et là, c'est particulier parce que le problème va être celui de la tumeur et pas tellement celui de l'épilepsie. Et le traitement antiépileptique enlèvera les crises, mais bien sûr, ne guérira pas la tumeur. Donc l'enjeu va être un petit peu différent. On va le revoir avec l'exemple que j'ai pris. Et les démences d'Alzheimer, 50% des patients qui rentrent dans une démence de type Alzheimer vont présenter des crises d'épilepsie. Donc là, on voit bien ce qui peut se dérouler au niveau cérébral. Donc vous voyez, c'est tout à fait différent des épilepsies de l'enfant, mais ça existe aussi. Les facteurs externes, j'en ai déjà parlé, le manque de sommeil, la fièvre, l'effort physique. Là aussi, quelqu'un dit, bon voilà, j'avais fait un effort important, j'avais voulu suivre les copains sur le chemin de randonnée, etc. Je me suis fatigué alors que j'ai pas du tout l'entraînement, et la nuit qui suit, j'ai fait une crise d'épilepsie. Le stress. C'est quand même souvent évoqué, à dire bon, j'étais dans une situation difficile, peut-être une dépression, peut-être une fatigue importante, des enjeux professionnels, des soucis familiaux avec mes parents, avec mes enfants, et la crise est apparue à ce moment-là. D'autres facteurs, bien sûr, l'alcool, on va le revoir, ça sera mon exemple que je choisirai tout à l'heure pour vous montrer les différentes formes de crise d'épilepsie, de maladies épileptiques qui sont reliées à l'alcool, les médicaments. Naturellement, il y a certains médicaments qui vont risquer de favoriser la survenue de crises d'épilepsie, les hypoglycémies chez le diabétique, les jeux vidéo, je vous en ai parlé. Donc je le redis, la crise épileptique est une coïncidence. Donc si le facteur interne est le plus important, le risque d'une nouvelle crise existe et justifiera qu'on mette en place un traitement anti-épileptique. Là, il n'y a pas de discussion. Si c'est le facteur externe qui est le plus important, ce risque est plus faible. Surtout si ce facteur externe peut être évité. C'est-à-dire que si le sujet peut faire quelque chose pour éviter que ce facteur externe qui a déclenché la crise se reproduise. À ce moment-là, le traitement antiépileptique n'est pas indispensable. Je parle bien après une première crise unique. Autre notion de cette distinction entre le facteur interne et le facteur externe, c'est que le traitement antiépileptique, lui, va n'intervenir que sur le facteur interne. Le traitement antiépileptique n'intervient pas sur le facteur externe. Ça veut dire que le patient épileptique doit aussi connaître les facteurs externes et s'astreindre à une certaine hygiène de vie. Il y a aussi un effort de la personne elle-même sur ses règles de vie. Il ne s'agira pas de dire, voilà, bon, je vais au lit très tard le soir, je fais la fête, etc., etc. Mais comme je fais des crises, j'augmente mon traitement antiépileptique. Non, il faut d'abord arriver à une hygiène de vie satisfaisante pour éviter d'obliger le médecin, en quelque sorte, qui lui voit les crises, il dit, je vous protège de plus en plus. Mais si le patient lui-même n'a pas géré, s'il le peut, des fois, ce n'est pas possible, n'a pas géré le facteur externe. Un exemple simple, c'est les jeux vidéo. Donc, vous savez, par exemple, certaines épilepsies photosensibles sont provoquées par les écrans. Si vous avez un écran, il y en a de moins en moins maintenant, il n'y en a même plus ici, les écrans cathodiques qu'on avait avant qui pouvaient provoquer, susciter des crises d'épilepsie. Maintenant, avec les écrans plats, il n'y a aucun risque. Donc, rien que de changer d'écran, on arrive déjà à éviter le facteur externe. Alors, l'enquête diagnostique, je vous l'ai dit, c'est un petit peu comme une enquête policière. On commence par l'interrogatoire, donc on va déjà bien interroger la personne, mais dans l'épilepsie, il faut aussi interroger l'entourage. Parce que la personne épileptique elle-même ne se souvient pas forcément de tout ce qui s'est passé, et il faut alors s'aider des parents, ou s'aider du conjoint, ou s'aider du témoin. Parce que des fois, on a seulement le collègue de travail qui a vu quelque chose, donc il faut le contacter, il faut avoir des informations sur ce qui s'est passé. Donc ce temps-là est vraiment un temps essentiel. Le deuxième, c'est bien sûr celui de l'examen physique, parce qu'on va examiner la personne, et voir s'il y a, sur le plan général, une maladie qui est connue ou qui n'est pas connue, qui est séquelaire ou qui est évolutive. Donc seul l'examen du médecin va permettre de savoir s'il y a autre chose qui pourrait être la cause de l'épilepsie. Et bien sûr, l'examen neurologique. Parce que si la crise d'épilepsie est isolée, ou si la crise d'épilepsie s'accompagne d'un déficit, d'une anomalie neurologique, ce n'est pas la même chose. Donc là aussi, cette donnée-là est une donnée cardinale dans la prise en charge. Bon, après, je vous ai dit, c'était la mise en examen, en quelque sorte, de notre présumé coupable, donc avec des examens complémentaires, ceux de la biologie, bien sûr, il ne faut pas oublier la prise de sang qui peut nous aider, celle de l'électroencéphalogramme, on l'a vu avec M. Maillard, celle de l'imagerie cérébrale, on l'a vu avec le docteur Tisserand. Et puis on arrivera donc à ce moment-là à une décision qui ne sera pas forcément une prescription. La décision, ça peut être d'abord l'éviction du facteur externe. J'espère que vous l'avez bien compris. Ça peut être effectivement un traitement antiépileptique contre les crises d'épilepsie, mais aussi le traitement de la cause. Si le sujet a une malformation cérébrale, ce n'est pas parce qu'il prendra un traitement antiépileptique qu'il va enlever cette malformation. Donc il y a aussi le traitement de l'origine de l'épilepsie, alors que le traitement antiépileptique, lui, n'est que contre les crises d'épilepsie. Ce n'est pas un traitement contre la maladie, c'est un traitement contre les crises. Alors, les questions que se pose le médecin dans les différentes étapes, je les ai reprises un petit peu, on les a déjà décrites. Donc, à l'interrogatoire, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une crise épileptique? Première question. Est-ce qu'il s'agit d'une crise partielle ou d'une crise généralisée? Là aussi, c'est intéressant de savoir si le sujet a senti venir sa crise. Est-ce qu'il y a eu des éléments qui l'ont prévenu, à dire « Ah ben, avant, je ne sais pas si c'est important, mais dans ma main, j'ai senti, elle était endormie. » Et bon, ça, c'est des éléments qui sont très importants. Il faut faire attention, parce que quelquefois, le sujet ne se souvient pas de ce qui s'est passé pendant sa crise, mais a tellement entendu l'entourage répéter les choses, les événements tels qu'ils sont passés, ce qui est normal, qu'il ne sait plus après si c'est ce dont il se souvient ou si c'est ce qu'on lui a raconté. Et alors, le neurologue a vraiment besoin de savoir la vérité, ce que le sujet lui-même a éprouvé et ce dont il se souvient. Est-ce qu'il y a eu d'autres crises avant, je vous l'ai dit, pour la personne ou pour quelqu'un dans sa famille? Est-ce que cette crise est liée à une situation particulière? Est-ce que le patient avait pris un médicament? Est-ce que le patient avait mal dormi? Est-ce que le patient était dans un contexte de stress? Est-ce qu'il avait fait un gros effort? Est-ce qu'il avait de la fièvre? Est-ce qu'il avait une maladie? Etc., etc. Est-ce qu'on peut, déjà, à ce moment-là, à l'interrogatoire, incriminer ou suspecter un facteur de causalité ? C'est-à-dire faire une hypothèse. On l'a vu, dit voilà, à la fin de notre observation, on va dire, bon, l'hypothèse la plus probable, c'est cette épilepsie-là. Et donc, les examens qu'on va demander vont vérifier l'hypothèse de départ. Alors, l'examen clinique sur la table d'examen, bah déjà savoir si la personne se plaint de quelque chose, et bon, explorer ce quelque chose, mal à la tête, paralysie d'un bras ou d'une jambe, un trouble visuel beaucoup plus discret, ou simplement une fatigue, un ralentissement. Existe-t-il d'autres signes neurologiques ? On reste quand même dans le champ de la neurologie parce que c'est le cerveau qui nous intéresse. Existe-t-il des signes d'une autre maladie qui pourrait être la cause de votre épilepsie ? Donc déjà, là, à ce moment-là, on a l'interrogatoire et l'examen qui nous orientent, première hypothèse, deuxième hypothèse. L'EEG, M. Maillard vous l'a dit, c'est vraiment un outil indispensable. Malgré la qualité extraordinaire des IRM et des progrès qu'on a pu faire, l'EEG garde toute sa place et vraiment est une aide précieuse et un examen relativement facile à faire et à reproduire, à recommencer, hein, autant de fois qu'il le faut, avec les techniques qu'il vous a présentées, et l'imagerie cérébrale, bien sûr. Est-ce qu'il y a des anomalies ? Et j'aurais presque pu rajouter, est-ce que ces anomalies sont en rapport avec l'épilepsie ? Parce que c'est aussi quelque chose qu'on se pose très rapidement. Alors, cette enquête va permettre de distinguer quatre situations. J'ai marqué le type d'épilepsie, mais je prends quatre situations. La première, c'est que la crise d'épilepsie est liée à la situation. Et elle est liée uniquement à la situation. Si on enlève la situation, la crise ne se reproduira pas. Donc ça, c'est vraiment la situation la plus simple. Hein, crise liée à une situation. Et souvent, on écrit au médecin, voilà, il a fait une crise unique. On ne traitera pas l'épilepsie. On traitera la situation ou on fera une éviction du facteur externe. Deuxième élément, l'épilepsie que j'appelle fonctionnelle, on devrait dire idiopathique, c'est-à-dire les épilepsies qui sont liées à la génétique, qui sont liées uniquement à un facteur de susceptibilité plus important, plus marqué à un moment donné. Donc c'est une épilepsie qui va durer quelques années, qui va être pharmaco-sensible. On va pouvoir, avec le traitement, faire disparaître les crises. Donc c'est une situation qui est gérable de manière relativement satisfaisante avec un bon pronostic. Et puis, il y a les épilepsies qui sont séquelaires, un traumatisme crânien, un AVC, je vous l'ai dit. Donc là, il y a une partie du cerveau qui a été abîmée, qui a été détruite, qui ne se régénérera pas, mais qui va provoquer une épilepsie. Et là aussi, il y a une évolution temporelle, c'est-à-dire limitée dans le temps. On va dire, ben, cette épilepsie-là, selon le degré, l'importance, elle va durer 5 ans, 10 ans. On va pouvoir, comme ça, dire à la personne, en fonction du traumatisme, en fonction de l'anomalie qu'on aura découverte, voilà comment que ça va se passer, comment ça va évoluer. Et puis, la quatrième situation, qui est quand même la plus sévère, c'est les épilepsies qui sont évolutives, notamment celles qui sont liées à une malformation qui saigne, parce qu'il y a, ou tumeur, etc. Donc là, bon, l'enjeu, il n'est pas tellement l'épilepsie, l'enjeu, il est sur la cause de l'épilepsie. Hein, et l'évolution, l'état de santé du sujet va dépendre encore davantage du traitement de la cause que du traitement antiépileptique, tout en sachant que lorsqu'il y a une cause qui est encore présente, c'est beaucoup plus difficile d'équilibrer l'épilepsie, puisque le médicament, il ne pourra pas agir contre le sang qu'il y a au niveau du cerveau et qui excite les cellules. Alors j'ai pris un exemple, celui de l'alcool, parce qu'il récapitule un petit peu tout ce que je viens de vous présenter. Il y a des crises épileptiques qui surviennent lors d'une intoxication alcoolique très sévère, à la limite du coma éthylique, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un, un jeune patient, qui a fait un abus, ou un très fort abus alcoolique, et qui est en état vraiment de coma éthylique, et qui va faire une crise d'épilepsie. Cette crise-là est liée à la situation d'intoxication alcoolique aiguë. Elle n'est pas une maladie épileptique, elle ne justifie pas un traitement antiépileptique. Alors, est-ce qu'après le sujet devra recommencer une autre fois à s'abreuver ? C'est une autre question. Deuxième situation, la crise épileptique qui survient lors de l'arrêt de l'intoxication alcoolique, qu'on appelle le sevrage. C'est-à-dire que la personne boit, le sait ou le sait pas d'ailleurs, le reconnaît ou le reconnaît pas, et puis, à un moment donné, parce qu'elle le souhaite ou parce qu'une autre raison vient interférer, il va arrêter sa consommation alcoolique et va présenter une crise à ce moment-là. Là encore, il ne s'agit pas d'une maladie, c'est une crise qui est liée à la situation de sevrage. on ne traitera pas l'épilepsie, on ne donnera pas de traitement antiépileptique, mais bien sûr, on va quand même proposer au sujet une prise en charge de son addiction pour essayer de le libérer de cette dépendance à l'alcool. Troisième situation, il y a une crise épileptique qui survient chez une personne donc qui a complètement arrêté de boire, qui est tempérante. Ça fait 3 ans, elle est abstinente, elle ne boit plus une goutte d'alcool, elle a vraiment bien suivi le programme qu'on lui a proposé d'hygiène alimentaire et elle fait des crises d'épilepsie. Là, c'est parce que l'alcool a été trop longtemps présent, si vous voulez, au niveau du cerveau et a abîmé, donc on revient à la notion de blessure, a abîmé le cerveau, et donc l'épilepsie est une vraie épilepsie, une épilepsie maladie, et là il faudra traiter parce que les crises vont se reproduire. Donc le médecin à ce moment-là juge, d'après les éléments, que le risque épileptique existe et il faut traiter le patient parce que si on ne le traite pas, il refera d'autres crises. Et la quatrième situation, c'est celle où au contraire, la crise épileptique est révélée par la prise d'alcool, mais elle est en rapport avec une autre cause, c'est-à-dire que le sujet a un problème de santé qui ne s'est encore pas révélé, et parce qu'il a un jour bu plus que d'habitude, il va faire une crise d'épilepsie, et c'est là qu'on va découvrir qu'il a une tumeur, c'est là qu'on va découvrir qu'il a une malformation. Donc, on va dire, ah ben, c'est à cause de l'alcool, c'est parce que j'ai bu un verre, c'est pour ça que j'ai fait une crise. C'est vrai, mais l'alcool n'est pas la cause, l'alcool est le facteur de révélation. La cause, elle est derrière. Donc, c'est une situation, vous voyez, ces quatre situations sont vraiment emblématiques de la discussion, du raisonnement que va avoir le médecin devant un patient. Puis donc je vais terminer par mon petit camembert, hein, pour vous montrer un petit peu la répartition des causes. Hein. C'est-à-dire que chez un adulte, on va retrouver environ 10% des épilepsies qui sont liées à une tumeur cérébrale. Tumeur bénigne ou maligne, mais voilà. Bon, on a à peu près ce chiffre-là. On a quand même 20% de situations qui sont liées à l'alcool, toutes formes confondues. On a 10% qui sont post-traumatiques, une fois sur 10. On a 10% aussi, vous voyez les chiffres sont simples, je les ai arrondis, hein, sont idiopathiques, donc liés à une prédisposition, à une susceptibilité particulière. 20% sont d'origine vasculaire, donc les... Pourquoi j'ai arrondi? Parce que, bien sûr, les études vont être différentes, les répartitions vont être différentes sur les tranches d'âge. Vous aurez beaucoup plus de vasculaire si vous faites une étude de l'épilepsie après 60 ans qu'avant 40 ans. Ça va de soi. Hein. Donc là, en moyenne, si vous voulez, 20% d'épilepsie vasculaire. Il y a quand même des divers. Il y a des maladies qui peuvent provoquer de l'épilepsie. Je pense au diabète, je pense à d'autres maladies qui peuvent entraîner des manifestations épileptiques. Et puis, il reste... On l'a dit, je crois que c'est déjà un chiffre qui est venu dans les présentations précédentes, on reste avec 25% d'adultes épileptiques qui ont un jour présenté une crise d'épilepsie, ou peut-être deux qui ont été traités, mais dont on ne sait pas la cause, dont on ne sait pas encore pourquoi ils présentent des crises d'épilepsie. Et c'est pour ça, là, si l'enquête ne retrouve pas de cause d'épilepsie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on appelle le professeur Vespinelli.